Marceau et Audrey Pinchot. Un Marceau tout seul, c'est correct. Open mic, open mic. Un Marceau bien accompagné, c'est tellement mieux.
Ça en sera une très belle aujourd'hui, les amis. Actuellement, sur Québec, on nous parle d'une température qui avoisine les 20 degrés avec le facteur humidex. Ça devrait être une température ressentie actuelle de 21 degrés. Ça va se réchauffer tout au long de la journée. On nous parle d'un maximum de 27 degrés pour ce qui est d'aujourd'hui. Avec le facteur humidex, possibilité de 30 comme ressenti. Ce soir, un ciel dégagé minimum de 10. Demain, jeudi, du soleil maximum de 26. Pourquoi je suis pas descendu en moto, moi? Maximum de 26 pour demain, 30 avec l'humidex. Vendredi, ce sera une alternance soleil-nuages avec 40% de probabilité d'averse, maximum de 18. Ma voix va beaucoup mieux, merci de me le demander, merci de l'avoir remarqué. Ça, on s'en va sur le bon chemin.
Bien, honnêtement, je te reconnais aujourd'hui.
Oui, bon.
Hier, t'étais comme trop doux et paisible, c'était louche.
Ah, ben je vais tenter de foutre la marde aujourd'hui, peut-être, qui sait. Mais samedi, j'étais chez nous, puis je filais pas gros, honnêtement. C'est dimanche. Je filais pas gros. Puis là, la personne qui partage ma vie me regardait. Puis je savais pas si c'était de l'empathie ou du mépris. J'étais comme sur le divan. Puis visiblement, je regardais la télé, mais tu sais, la télé dans le vide.
Ouais, wow, ouais,
je la regardais, mais je la regardais pas. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y a quelqu'un qui me regardait. Fait que je regardais qui me regardait, puis c'était elle. Puis là, je me suis dit, est-ce que c'est du mépris ou de l'empathie qu'elle a?
D'après moi, un beau mélange des deux.
Ouais.
Parce que c'est vrai que vous avez l'air larve dans ce temps-là. Parce que vous, quand vous êtes malade, c'est comme si vous passiez à travers la Deuxième Guerre mondiale.
Ça s'appelle une grippe d'homme.
Oui, et c'est une fausseté de A à Z.
Quiconque a déjà accouché ne peut pas dire, sans avoir eu la grippe d'homme, que la grippe d'homme est moins pire que l'accouchement.
Je te brûlerais.
Comment ça?
Franchement.
Une grippe d'homme, c'est tough, là.
C'est Yannick. Mais le mépris vient exactement de là, parce que nous, on a le même virus, puis on rentre travailler, puis on s'occupe des enfants pareil, on fait le ménage, on roule pareil, tu comprends? Mais c'est difficile d'être un homme.
Mais dimanche, on m'aurait pris une poche de soluté. Avec un moniteur cardiaque, ça allait pas pantoute.
Oh,
puis finalement, trois jours après, je suis correct. Fait que ça a passé super vite. C'était des maux de gorge, l'extinction de voix, puis une petite toux sèche. Fait qu'avec du sirop Benadryl, qui endort, soit dit en passant.
Oui.
Peut-être pour ça que j'étais un peu fucké hier. Mais le Benadryl, ça a l'air que c'est fort sur le sommeil, mais ça m'a grandement amélioré, là.
Oui, bien écoute, t'es en forme. T'es exact. En forme ce matin, t'es là, t'es avec nous.
Voilà, ce qui fait en sorte que j'ai complètement oublié qu'est-ce que je voulais te dire, parce que tu m'as amené sur un autre sujet.
Ah, je t'ai dérouté.
Enfin, je veux plus te parler. Ah oui, eux autres, les manifestants, les manifestants des camionneurs, on vous salue, les amis. C'est 2000 camionneurs qui se déplacent vers Québec actuellement. Donc, si vous êtes sur notre fréquence, merci d'être là.
Ils s'en vont devant
bienvenue chez nous. De ce que je comprends, ils vont bien faire les choses. Ça va commencer vers midi et ça se fera via l'autoroute Charest ou la 40 en direction centre-ville. Donc, essayez d'éviter ce secteur-là. Par la suite, on prend l'avenue Saint-Sacrement en direction nord pour aller faire un tour en face de la Bourbouffe, donc sur le boulevard Amel. Et ensuite, on va aller chercher Pointe-aux-Lièvres pour après ça revenir vers la ville de Québec et monter en Hauteville. Puis le point de sortie s'effectuera via la bretelle de l'autoroute 73 Nord. C'est ce qu'on nous mentionne. Donc, il y aura des entraves assez importantes. Si vous êtes capable de faire du télétravail, faites-le. Sinon, tentez d'éviter le secteur. Ou sinon, dépêchez-vous d'aller dans la ville de Québec puis aller manger dans un restaurant. On a des super de bons restaurants au centre-ville de Québec puis en Hauteville. Donc, dépêchez-vous parce que les camionneurs s'amènent puis ils vont être 2000. Fait que ça va faire un petit bordel sur nos routes. Donc, bienvenue dans la capitale nationale, les amis. Manifestation, c'est légal?
Oui.
Tant aussi longtemps qu'ils font pas de troubles, ça devrait être correct. La police de Québec, jusqu'à maintenant, semble dire que ça va bien aller. L'itinéraire a été donné. Les policiers vont être sur place pour être sûr, certains, de faire passer tous les camions. Fait que ça va occasionner un petit trafic à certains endroits.
On va surveiller ça.
T'ouvres-tu encore le dictionnaire, toi, en 2025, où tu fais comme moi? Tu t'écris sur Google le mot que t'es pas sûr, genre « échalote ».
Ouais.
Puis,
ça te dit comment l'écrire.
T'es-tu plus de même?
Je dois te dire que ça fait plusieurs mois que j'ai pas ouvert un dictionnaire, mais je te mentirais de te dire que j'ai l'ouvert pour chercher un mot. J'ai l'ouvert parce que je faisais du ménage puis que je suis tombée dessus. Je pense plus que grand monde encore à ce jour qui ouvre un dictionnaire papier. Mais je sais que tous les ans, il y a des nouveaux mots. Et ça, tu vois, ça me fascine. Fait que j'avoue que quand, mettons, je vais dans une bibliothèque ou que j'ai accès à, je feuillete. Mais j'achèterai pas un dictionnaire en 2025.
Il y a des nouveaux mots qui arrivent, puis bien souvent, c'est les enfants qui vont vous arriver avec les nouveaux mots. Là, moi, mes gars écoutent beaucoup des youtubeurs français, marocains. Puis il m'arrive avec des mots des fois que j'ai jamais entendus. Puis ils ont comme un code. C'est comme des codes qui se donnent ensemble en sachant que nous autres, on peut pas trop comprendre. Puis parfois, ils décident de s'ouvrir puis de te dire un peu qu'est-ce que ça veut dire tel mot ou tel mot.
J'imagine que cette année, les nouveaux mots sont reliés à des concepts de plus en plus présents, genre l'intelligence artificielle. Des fois, il y a des anglicismes qui s'ajoutent aussi au fil des ans.
Oui, il y a ça. On nous dit que c'est des gens qui travaillent pour Larousse, là, qui regardent un peu les mots qui s'en viennent dans les prochaines années puis qui décident de les placer. Cône orange. Je suis en train d'essayer de chercher l'article. Là. Cône orange, Audrey. Est-ce que tu savais que c'était pas dans le Larousse?
Non. Ben, j'imagine que cône est là, orange est là, mais là, c'est en train de me dire que cône orange va être carrément un mot.
Ouais.
Ça, c'est weird.
Mais c'était pas là avant. Mais j'ai toujours pensé qu'un cône orange, Audrey, c'était un cône orange, mais ça s'appelle pas comme ça.
Mais voyons, Yann, c'est un cône et il est de couleur orange. Donc, c'est un cône orange.
Parfait. Cherche-le.
C'est deux mots.
Cherche-le.
Tu veux que je le cherche sur Google?
Oui.
Cône orange. Puis là, tu veux que je te prouve quoi?
Ben, dis-moi, c'est quoi le vrai mot de ça?
Ben là, écoute, si on me montre plein d'images de cône orange, cône de sécurité?
Non.
Ben là, je donne ma langue à mitaine, là.
Tu donnes ta langue à mitaine.
Ouais, mon chat s'appelle mitaine. Je donne ma langue au chat. Je donne ma langue à mitaine.
C'est balise.
Balise, c'est un cône orange.
Ouais.
Arrête-toi.
Cône.
Je m'en vais dropper des balises sur l'autoroute.
Orange, balise.
Tu niaises-tu, toi?
Je te dis.
Ben oui, toi. Le cône de signalisation, cône de chantier ou le cône de Lubec.
Ça s'appelle des balises à foison.
Dans une zone de balisage, ben oui, ça fait bien du sens.
J'ai jamais entendu parler de ça.
Mais nous autres, parce qu'on est assez simple, hein? Cône orange dans cône orange, là. Ben, je savais pas.
Tu savais pas, hein?
Non.
Y a-tu d'autres mots comme ça que toi, tu t'es rendu compte que tu avais toujours dit puis qui n'étaient pas encore dans le dictionnaire?
Ben là, j'imagine que les anglicismes, genre tous les mots... Hey, je sais pas. Vas-y donc. Lesquels sont apparus?
Ben, cône orange, moi, sérieusement, qu'ils mettent ça en 2026, là, c'est une nouveauté. C'est balise à foisson. Mais il n'y a pas un gars sur les chantiers qui va appeler ça balise à foisson.
Peux-tu m'apporter le balise à foisson, s'il te plaît?
le premier gars qui va appeler ça balise à foisson sur le chantier, d'après moi, il va se faire fesser. C'est ça qui risque d'y arriver. Là, j'essaie de retrouver mon maudit article qui nous parle des nouveaux mots. J'avais une liste complète que je voulais t'envoyer. Tu l'as, hein?
Mais oui, je l'ai. C'est parce que toi, t'es dans notre mauvaise conversation en ce moment. Il est dans notre conversation personnelle.
Ah, c'est ça. Bon, fait que cône orange, ça rentre dans le dictionnaire. Après ça, un balado, ça, c'est assez facile.
Mais balado, c'est déjà là.
Un podcast.
C'est un podcast, ben oui.
Non, c'est des nouveaux mots qui rentrent dans le dictionnaire. C'est émission audio ou vidéo diffusée en balado-diffusion. Balado rentre dans le dictionnaire.
OK.
Apprentissage profond. Ça veut dire apprentissage automatique qui utilise des réseaux de neurones.
Hey, c'est compliqué, là.
Après ça, cagnoter.
C'est quoi ça?
Que veut dire cagnoter? Moi, j'entends cagnotte, là. Donc, cagnotte, c'est montant d'argent. Donc, Audrey va remporter la cagnotte. Audrey va remporter un certain montant d'argent.
C'est ramasser de l'argent?
C'est ramasser de l'argent ou collecter de l'argent dans une cagnotte.
C'est que je cagnotte.
Ouais. Si je te dis à quelqu'un, tu captes-tu?
Ah, ben oui, mais ça, c'est capter, c'est tu catches-tu, c'est tu comprends-tu? C'est capter une information.
C'est pas ça.
C'est quoi?
C'est joindre quelqu'un, donner un rendez-vous à quelqu'un.
Non, là, ça, c'est n'importe quoi, là.
Ben, tu t'ostineras avec les linguistes
mais
du
mais
Larousse.
Mais les autres, ils vivent pas sur le plancher des vaches, voyons. Quand je te dis, tu captes-tu ce que je dis, ça veut dire tu comprends-tu?
Quand ton jeune dit, c'est carré, pas. Hey, ça pas, c'est carré.
C'est carré, ça veut dire que c'est... Ben, c'est pas drette, là, visiblement. Là, c'est pas,
mais moi, un carré, c'est drette, là. Je suis pas un spécialiste.
Non, mais quand je dis ça tourne carré, ça tourne pas bien, c'est...
OK. Ben, quand ton jeune te dit c'est carré et c'est accepté maintenant dans le Larousse, c'est parfait.
Ben non, c'est tout sauf parfait, carré. C'est l'inverse de parfait. Il me semble que ça roule carré à matin. Il me semble que ça roule pas bien à matin.
Oui, ça, c'est ce qu'on disait avant. Là, maintenant, il va falloir que tu te replaces. On reprend sur toi.
C'est n'importe quoi.
Après ça, on a tous entendu parler des fameux chemtrails.
Oui.
Les conspirationnistes.
Absolument.
Qui sont, en fait, quand tu regardes un peu ce qui se passe, c'est des contrails, donc des traînées de condensation. Les conspis appellent ça des chemtrails. Ben là, il y a chemsex qui rentre dans le dictionnaire Larousse.
Chemsex?
Ouais.
Ça veut dire quoi, ça?
C'est du sexe c'est du sexe que tu as avec quelqu'un tout en ayant pris de la drogue. Donc, c'est l'usage de drogue lors de rapports sexuels.
Donc, chemsex... J'imagine que chem vient de chemicals, genre? Que...
T'es pas pire.
Et non, mais réfléchis de temps en
temps. Il y a des gens
temps.
Qui font beaucoup de chemsex. Moi, ça m'est jamais arrivé. Je veux jamais... À part alcoolisé, peut-être, là.
Mais c'est ça, j'allais dire. Alcoolisé, mais pas drogue.
Ouais. Tu sais, il y en a qui vont prendre de la coke pour baiser. Qui vont utiliser ça pour baiser, puis ça a de l'air que ça donne un buzz supplémentaire. Ne faites pas ça, mais ça a de l'air que ça donne un buzz supplémentaire. Il y en a qui se gèlent en faisant l'amour avec de la coke.
C'est particulier, hein?
Oui. C'est que la fille va faire une fellation au gars. Mm-hmm. Le gars, il a mis de la poudre sur son pénis. Donc, ça va geler son pénis, puis la fille, ça va geler la bouche.
Oui, mais je te relance. Il y en a beaucoup qui vont utiliser ça, les drogues par voie vaginale. Parce que c'est des tissus qui sont tellement, qui absorbent tellement facilement, c'est tellement une entrée directe. Il y en a qui se rendent des affaires dans le derrière aussi, là.
Quel genre d'éducation que tu as eu?
Non, moi, je relate ce que je lis sur Internet.
Les mots qu'on connaît plus, débunker, ça, on l'a entendu beaucoup dans les dernières années.
Ben, débunker, c'est quand il y a quelque chose qui est faux, là.
Démontrer une fausseté. Après ça, démission silencieuse ou démission discrète?
Ah, mais ça doit être quand tu... Ah oui, mais ça, c'est de l'auto-sabotage. Moi, j'appelle ça de même en bon français. Ça veut dire que tu... pour ne pas avoir à démissionner parce que tu l'assumes pas, mettons, tu vas comme travailler de moins en moins, tu vas être de moins en moins efficace pour qu'on finisse par te mettre dehors parce que tu fais plus
la
job.
La fameuse technique pour avoir du chômage quand tu veux quitter ton emploi.
Oui.
Il y a beaucoup de gens qui ont utilisé cette technique-là.
Mais le monde fait ça dans les relations.
Comment?
Mais dans les relations... Moi, je faisais ça quand j'étais jeune. L'auto-sabotage, c'est-à-dire que quand j'étais plus bien que quelqu'un, je voulais pas faire de peine, j'étais pas capable de laisser la personne, je devenais détestable. Personne me crissait là.
C'est ça que tu fais avec moi?
Non.
Je vais te garder.
J'ai grandi, je fais de la thérapie maintenant, Yannick. Je fais plus ça.
Fait que démission silencieuse ou démission discrète, c'est le fait pour un salarié de s'investir le moins possible dans son travail, généralement par la démotivation, ce qui va faire en sorte que l'employeur va le constater. Après 3 avertissements, c'est merci, ciao, bye. Puis la personne va pouvoir avoir son chômage puis pouvoir trouver un emploi
c'est crasse, pareil,
qui lui
hein?
convient. Ben ouais, c'est crasse. Mais en même temps, il y a quelque chose d'humain là-dedans. T'en payes du chômage. À un moment donné, tu dis, tu sais, j'en ai jamais eu de ma vie. Là, peut-être que ce serait un bon moment pour moi d'en avoir, pour avoir le temps de trouver un emploi qui me convient, plutôt que de prendre le premier emploi qui va me tomber dessus une fois que j'aurai sacré mon employeur là. Mais si vous êtes un meilleur être humain, vous le faites pas.
OK? Ouais. Idéalement, ça, c'est pas ce que tu fais.
Dinguerie, ça, c'est assez facile. Donc, dinguerie rentre dans le dictionnaire maintenant, ça veut dire incroyable. Du drag. D-R-A-G.
Ah, mais ça, il y a deux affaires dans ma tête. Draguer, comme cruiser. Sinon, du drag, c'est la forme d'or, là. Les drag queens.
Exact. Or consistant à interpréter un personnage, souvent de sexe opposé à l'apparence recherchée et exubérante, en jouant sur les stéréotypes de genre. Gâté, bon, ça, c'est terme d'affection. Ah, là.
Mais son, c'était donc bien gâté, bébé gâté.
Hallucination, résultat incorrect ou trompeur produit par une intelligence artificielle générative avec une apparence de vérité.
Fait que là, on a changé le terme hallucination, dans le fond, parce qu'hallucination, ça a toujours été...
Exact. Hyper-trucage, procédé de manipulation audiovisuelle reposant sur l'intelligence artificielle et qui permet la création d'images, de vidéos ou d'audio truqués très réalistes. Insert, ça existait beaucoup... Ben, insert, en fait.
C'est pas technologique, ça?
Préparation culinaire insérée à l'intérieur d'un entremets d'un gâteau.
Hey, on a déjà de la misère à gérer notre français au moment où on se parle. On peut essayer de garder ça simple?
Donc, c'est un insert.
Bon.
Ouais, préparation culinaire insérée à l'intérieur d'un entremets d'un gâteau.
OK.
Microagression, agression superficielle. Y a-t-il des mots? Mpox! On a entendu ça l'année passée, ça, Mpox. C'est la maladie infectieuse et contagieuse d'origine virale
c'est
formée
variole, ça, là,
atténuée de la variole.
Ouais. Mpox. Fait que ça rentre dans le dictionnaire.
Ouais. Si tu dis à quelqu'un, je te piste. J'apprends
suis?
À te pister.
Ah non, mais j'apprends à te gauger. J'apprends à te... J'ai le terme anglophone. Mais je te piste, tu sais, je te... Mais j'apprends à te gauger. J'apprends à... À saisir t'es qui, là?
J'apprends à comprendre qui tu es.
Bon, c'est ça.
J'apprends à te pister.
À te pister ses lettres. Ouais.
Mais admettons qu'un gars dit ça, là. Audrey, je te piste, là. J'espère que tu vas te revirer, là.
Ben moi, si tu me pistes, ça sonne animal, là. Fait que j'ai ouais, mais... ça sonne freak.
À mes oreilles, à moi, peut-être que je suis dans l'erreur, mais pister quelqu'un, c'est exemple, le gars, il pense qu'il est seul, puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui le suit dans
ouais,
le sentier.
C'est ça, c'est ça.
Mais là, c'est comprendre maintenant.
Non, ça, c'est bizarre. Comprendre est un mot en soi, hein, je veux dire.
Soumission chimique.
Ben la soumission chimique, ça doit être tout ce qui est, ça doit être l'ensemble de tout ce qui est drogue, alcool, soumission chimique.
Soumettre quelqu'un chimiquement.
Ouais.
Donc lui faire prendre la dope sans qu'elle le sache pour la soumettre. Donc exemple,
drogue, viol,
profiter d'elle enfants, sexuellement. Là, celle-là là, je l'aurais jamais su. Surcyclage. Qu'est-ce que du surcyclage?
Ben c'est-tu que tu recycles trop?
Réemploi. De matériaux ou d'objets usagés pour la fabrication de nouveaux produits de plus grande valeur.
Fait que c'est du seconde main.
Mais que tu revends plus cher que la première fois où que la personne
a fait acheté. Fait que c'est crossé, finalement.
Ben non. Ça,
mais c'est crossé du monde, je veux dire.
Ça fait juste les affaires. Exemple. M'a donné...
Oui, mais c'est que tu fais de la surenchère.
T'as peu. Tu vas chez Dollarama... Ouais. Au centre-ville de Québec.
J'achète un bac, puis je te le revends 10$ au lieu de 2$.
Tu achètes une bouteille d'eau.
OK.
1$.
Ouais.
Parfait. Tu t'en vas dans le désert.
Ouais.
Tu n'as pas touché la bouteille d'eau. L'eau est la même. Le contenant est le même. Le bouchon est encore scellé. Dans le désert, ça vaut combien cette bouteille d'eau-là que tu as achetée à 1$?
Ben, elle vaut bien plus cher.
Elle vaut combien?
Ben, elle doit valoir, je sais pas, moi, 15$.
Bon, ben, c'est ce qu'on appellerait du surcyclage.
C'est crosser le monde.
Tu n'as pas crossé personne.
Ben, voyons, tu le payes 1$, tu crosses le monde.
Ben non.
On va se parler en bon français.
Tu la portes dans le désert.
Ben oui, je comprends, mais tu changes le contexte pour y donner une valeur supplémentaire. C'est de la merde.
Elle vaut plus cher.
Ridicule.
Non?
Non, j'embarque pas.
OK. T'achètes une bouteille d'eau à 1$.
Oui.
Tu t'en vas au Festival d'été de Québec, t'achètes une bouteille d'eau, elle vaut 7$.
Oui. Parce que le monde ne veut pas faire la file, ben c'est crosser le monde pareil. Voyons.
OK.
Revenons à base, là.
Les gens qui t'ont acheté ta maison, t'es-tu traité de crosseur?
Non.
Parce que t'as payé la valeur du marché?
Ben, je pourrais dire qu'ils sont profiteurs dans la mesure où s'il y a une surenchère généralisée au niveau des maisons. Fait que est-ce qu'ils profitent de la situation?
Ouais.
Assurément.
Che Guevara, c'est qui, toi? C'est Fidel Castro? C'est...
Oui. Okay. Ben non, mais je comprends le principe, mais c'est grossé pareil.
OK, puis Che Guevara, puis Castro, tout le monde égal?
Ça veut pas dire que je comprends ce que tu me dis. Mais c'est crossé pareil.
Hey, tu vas tu planifier un attentat?
Non.
Au prochain sommet qui va avoir lieu à Québec? Toi,
ben... Je ne suis pas Alexandre Boissonneau.
Non? Bon. Hey, breaking news, je viens d'avoir ici une information privilégiée. Denis Lortie serait le prochain candidat pour Québec solidaire.
Franchement, ta langue sale, tu dis pas des affaires de même.
Ben non, mais là, attends un peu. Là.
Reviens au mot.
C'est le médicament. J'ai pris des médicaments. je le comprends différemment. Je verrais le gars qui achète une bouteille d'eau et fait une mangeoire à oiseaux avec. Ah, peut-être okay, que ça pourrait être
de transformer un produit.
Ouais.
Je comprends. Puis là, tu la revends. Fait que c'est comme du seconde main fait avec des bricoleurs. Mettons qu'on se met ça simple. Est-ce que tu savais que le mot « miellerie » n'existait pas dans le dictionnaire?
La miellerie. Attends un peu. Une miellerie, c'est un endroit où on vend du miel?
Oh, oui.
Où on le fabrique.
On s'entend, exactement. Mais miellerie, c'était pas dans le dictionnaire.
Ah non?
Non. Puis pourtant, c'est un mot qu'on utilise, je veux dire, fréquemment. C'est pas quelque chose qui est complètement nouveau. Deuil blanc, je trouve ça adorable. C'était pas dans le dictionnaire. Mais moi j'ai de la misère dans
le deuil blanc.
Oui, c'est quoi ça? C'est quoi? Le deuil blanc, c'est un deuil que tu éprouves face au début de manifestation d'une maladie, par exemple, d'un proche qui est encore vivant. Fait que, mettons, tu sais que ta mère va décéder dans les deux prochaines années. C'est un deuil blanc que tu vis. Parce que tu commences à entamer le deuil, tu commences à... tu l'appréhendes. Fait que c'est comme si tu fais le deuil pendant qu'elle est encore vivante. J'imagine que le deuil blanc, ça peut être par rapport à un emploi aussi. Tu sais que tu n'es plus bien depuis longtemps.
Ouais.
Tu fais le deuil pendant que tu es encore là-dedans. Puis quand tu quittes, ben ça te fait plus rien parce que ton deuil est déjà fait. Deuil blanc. Je trouve ça beau. Mais non, mais c'est parce qu'on le vit tout, on le fait tout.
Ça doit pas être facile, par exemple?
Non, ça doit pas être facile, on s'entend. Hey, fait que c'est ça. Je trouve ça intéressant, toutes ces affaires-là.
Les nouveaux mots qui arrivent.
C'est de la chenoute pour la majorité, là. Moi, le moment où dans le dictionnaire, tu mets deux mots pour exprimer un mot, je trouve ça ridicule. Cône orange. C'est un cône.
Balise à foisson.
Franchement.
Je savais
pas. C'est ridicule. Ouais. Ça marche pas pantoute.
Exact. Hey, parlant d'autres choses ridicules, textez-moi, les amis. 418-971-1021. 418-971-1021. Ah, j'ai une autre affaire à parler. Fais-moi penser de te parler du petit gars à la pharmacie hier que j'ai vu.
Tu m'as texté ça. Okay. Hey, t'as plein d'affaires à raconter. Ça t'a fait du bien, la maladie?
Oui, ben oui, je suis à la pharmacie. J'allais chercher du sirop. J'ai encore entendu parler d'une histoire comme ça. Ça m'arrive souvent, puis il y a beaucoup d'auditeurs qui m'ont rapporté ça, mais sérieusement, dans les derniers mois, les dernières années, j'osais croire que ça pouvait changer avec le temps. Tu sais, le système de santé, c'est dur d'y accéder, mm-hmm. puis quand tu y accèdes, ben, t'es content, puis là, tu rencontres ton médecin, puis tu lui racontes toutes les affaires, puis là, lui, il arrive avec ses prescriptions par-ci et par-là, aïe et aïe, comme on dit en Beauce, à gauche et à droite. Encore ce matin, j'ai parlé avec une personne qui m'a écrit sur mon Messenger. C'est une personne que j'adore, OK? Elle avait un rendez-vous avec son médecin ce matin. Elle avait deux problématiques. La première, c'est qu'elle devait le rencontrer pour planifier son retour au boulot. Parce que c'est une personne qui était en arrêt de travail, de maladie, en fait. Non, donc en arrêt de travail pour cause de maladie. Puis là, ben, elle rencontrait son médecin ce matin pour qu'il puisse signer un papier comme quoi elle est prête à retourner au boulot. Et elle lui a dit... « Docteur, depuis 3-4 nuits, je me réveille, puis je suis incapable de respirer. »
Oh,
elle se réveille, non. Elle se réveille parce que son cerveau, pendant son sommeil, oublie d'y envoyer le réflexe
du sommeil.
De respirer. Exact. Puis elle lui a tout expliqué ça, et le docteur lui a dit « Un rendez-vous, un problème. »
Oui, j'avais l'impression que tu t'en allais là.
Ça, là... Je pourrais te tuer.
Ah, mais je te comprends totalement. Je te comprends totalement.
Là, il s'agit d'une femme d'à peu près 30 ans qui m'a écrit. Là. OK? Fait que c'est correct. OK? Mais si c'est une dame de 90 ans, puis elle parle d'une problématique, puis après ça, elle sent qu'il y a un point à quelque part là, qui fait mal, puis il y a une masse. Puis là, tout d'un coup, le docteur, il dit, « Madame, une rencontre, un problème. » Puis cette dame-là décède, je sais pas moi, quelques semaines plus tard. On va-tu retourner voir le médecin pour lui dire...
C'est de ta faute.
C'est de ta faute? Non, jamais. Je ne peux pas croire qu'encore en 2025, ce genre de geste trou de cul de la part des médecins se fait encore. Quand je parle avec les médecins, dans l'ordre des médecins, là, on me dit tout le temps, non, mais ça, c'est une vieille légende. Ça n'existe plus.
Au contraire, c'est de plus en plus fréquent.
Puis, j'ai parlé il y a de ça 2 ans sur les ondes de boulevard avec, justement, là, cette belle organisation qui s'occupe des médecins. Et j'avais demandé cette question-là au président. Puis, il m'avait dit, non, ça, c'est une légende, ça. Aujourd'hui, ça se fait plus. Quand vous avez un problème, vous avez un certain moment que vous allez pouvoir rencontrer le médecin, vous allez lui parler de tous vos problèmes, puis ils vont vous prescrire des médicaments par rapport à ça, et il y aura un suivi. Ça, c'était une super de belle réponse, mais concrètement, ce que je m'aperçois, c'est qu'il y a des médecins qui n'ont pas capté l'information de la part de leur ordre en haut. Un rendez-vous, une question. On est-tu vraiment rendu là en 2025?
Mais c'est parce que ça leur sauve du temps. Ils peuvent prendre plus de patients. Mais tu sais, à mon compte, si tu as un rendez-vous de 30 minutes avec ton médecin, bien, rentabilise ton temps, là. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. Là. Quand je suis allée voir mon médecin de famille pour la première fois, je l'ai étourdi bien raide. Là. On avait une demi-heure ensemble. J'avais 18 questions. J'ai jamais eu de médecin de famille. J'ai des petites affaires que je traîne depuis toujours, des questionnements que je ne suis pas sûre. Tu te sers de ce temps-là pour ça. Mais les autres, mettons que ma demi-heure, j'ai juste un problème puis ça dure 7 minutes. Bien, tu comprends qu'il vient de récupérer du temps, lui-là. Là.
OK. Mais toi, tu penses que c'est pour récupérer du temps?
Bien, j'ai l'impression. Le temps, c'est de l'argent au final. Là. C'est la première chose que je me suis dit. Les autres sont payés aux patients. Fait que...
Ils sont payés effectivement à l'acte. Donc, plus ils vont passer de carte d'assurance maladie, plus leur paye va être grosse. Sérieusement, si jamais votre médecin fait ça, dénoncez-le à son ordre. Ils n'ont pas le droit de le faire.
Je sais pas c'est quoi les règles exactes, parce que je serais pas prête à me commettre sur « ont-tu le droit, ils ont pas le droit ». Je sais pas si c'est personnel à chacun, je sais pas, je connais pas ces règles-là, 88-971-1021. Ce que je sais, c'est que ça manque un peu d'humanité. Parce que, je veux dire, tu peux pas n'avoir qu'un seul problème quand tu finis par voir un médecin. Ça prend tellement de temps à être capable d'avoir un rendez-vous.
J'ai un très grand respect pour les médecins qui se respectent et qui respectent leurs patients.
Ah, ben il faut.
Mais parfois, je me rends compte qu'au lieu d'avoir fait un serment d'Hippocrate, ils ont fait un serment d'hypocrite. Et ça, à chaque fois que j'entends ça, « Non, madame, je le sais que vous avez une problématique. Là. Vous venez de me dire que votre cerveau oublie de respirer pendant la nuit, puis ça vous réveille, puis vous vous réveillez en état de panique. »
Mais reprenez un rendez-vous.
Mais reprenez un rendez-vous dans quelques semaines. Mm. sérieux, c'est trou de cul comme réponse. Puis j'ai demandé à avoir le nom du médecin parce que sérieusement, je l'aurais mentionné en nom. Ça ne se fait pas, ces affaires-là.
Pour balancer, il y a Nathalie qui nous dit « Moi aussi, je pourrais les battre, ceux qui font ça. » Elle m'a dit « Pour le point positif, j'ai rencontré une médecin la semaine passée puis elle, bien, elle a fait le tour de tous mes problèmes, prescription, radiographie, prise de sang, tout le gros kit le temps que j'étais avec elle. »
Félicitations
à cette médecin-là.
Il y a du bon
monde, c'est ça. On ne peut pas généraliser non plus, mais malheureusement, ce que tu racontes là, Yann, c'est pas la première fois que j'entends ça. Puis de proche de moi, là. Puis c'est insultant, là, parce que après ça, tu t'inquiètes pour ces gens-là. Là. Puis c'est ça l'affaire, tu l'as dit, plus les gens vieillissent, plus il y a des petits bobos ici et là. Puis c'est que là, tu sais pas quoi faire avec ça, parce que tant qu'à être chez le médecin, tu vas poser ta question. Fait que je trouve que c'est ridicule.
Moi, ouais, mais crée à moi, là. Qu'est-ce que je dis, moi? J'ai aucune connaissance.
Hein. Ben non, mais t'as pas les ressources non plus.
J'ai dit, tu sais quoi? Ça se peut fortement que tu redormes ce soir. Puis ça se peut que tu aies encore des épisodes où ton cerveau oublie de respirer.
Je me demande...
Moi, si j'étais toi, j'irais à l'urgence. Ouais. Mais tu comprends que c'est pas nécessairement urgent, mais c'est hyper inquiétant. Fait que là, on va se présenter à l'urgence, puis elle va attendre un 8h, un 9h, un 10h.
Mais je commencerai par la pharmacie. Parce que là, je me mets peut-être les pieds dans la bouche, là, 971-1021. Là, je vais poser la question à la pharmacienne avec qui on fait affaire, là, qui vient nous voir de temps en temps, Mélissa Bella. Mais je pense qu'il y a des machines qui se louent pour les essayer quand on parle d'apnée du sommeil dans les pharmacies. Fait que je pense que dans ce cas-là malheureux, elle pourra aller voir sa pharmacienne pour commencer, ou son pharmacien, qui lui peut rediriger en urgence s'il y a quelque chose. T'sais, c'est trouble de devoir faire ça, tu vas me dire, là. Mais il y a possibilité. Avant d'aller à l'urgence, là, d'aller voir le pharmacien et pharmacienne, parce que je sais qu'il y a des outils.
Puis merci du conseil. C'est juste que je comprends
c'est pas pareil.
Pourquoi cette dame-là décide de m'écrire pour me parler de ça. C'est qu'elle est sans ressources.
Ben absolument.
Elle a rencontré son médecin ce matin. C'est genre un télé-rendez-vous, de ce que je comprends, de ce qu'elle m'expliquait.
Télémédecine.
Puis là, elle lui a dit non, madame, c'est un rendez-vous, un problème. Puis là, elle me dit Anne, qu'est-ce que je fais avec ça? Je dis, il y a de fortes chances que tu dormes ce soir. Va à l'hôpital, ils vont te dire quoi faire, là, ou va au CLSC. Mais tu sais, passer par la pharmacie, c'est pas fou. Peut-être que le pharmacien pourra lui donner des meilleurs conseils que moi, je peux le faire. Mais les gens sont tellement rendus sans ressources qu'ils me demandent à moi quoi faire.
C'est débile. Ben, c'est parce qu'en fait, je pense pas qu'ils te demandent quoi faire plus que d'exposer une situation, parce qu'on a la chance d'avoir un micro puis d'être un peu la voix qui transmet de façon large, là, je vais le dire comme ça. Il y a quelqu'un qui nous dit « La pharmacie, c'est beau, mais ça prend une prescription du médecin pour aller faire le test avec une clinique du sommeil. » Peut-être que cette personne-là peut aller au privé, sauf que là, c'est pas tout le monde qui a des bonnes assurances. Fait qu'encore une fois, c'est mal foutu. On nous dit qu'il faut aussi passer en pneumologie. Au privé, 350 $ ou hôpital, des mois d'attente. Fait que malheureusement, souvent, les gens, effectivement, vont se retourner vers le privé.
Bon, c'est des bons trucs. Mon dernier sujet, parce que mon invité est arrivé, elle nous attend, puis je veux pas la faire attendre. J'aime ça, jaser. C'est Paul Lévesque, spécialiste du comportement humain qui est dans le lobby. Paul, tu peux rentrer dans le studio si
oui, c'est
tu
ça,
nous entends.
Là.
Hier, j'ai assisté à quelque chose de vraiment cute, mais de vraiment malaisant. OK?
Malaisant?
Dans ma vraie vie, moi, je suis timide. Je suis timide comme individu, OK? Ce qui fait en sorte que je me souviens de la première fois et la seule fois, en fait, que j'ai eu une entrevue pour une embauche. J'ai jamais eu d'autres entrevues. C'est jamais arrivé. Je suis rentré à des places parce que j'avais des contacts, puis c'était assez facile. Je n'avais pas besoin de rencontrer les patrons nécessairement pour une demande d'emploi. Ou c'était les patrons qui venaient me voir me dire « Hey, Marceau, OK, c'est toi. OK, on pensait t'engager. » Mais... Fait que je m'en vais chez Ronald McDonald.
Oui.
J'avais des pantalons en velours cordé brun qui étaient maganés comme pas possible. J'avais mon genre de polo rentré dans les culottes. Puis j'allais faire ma demande d'entrevue chez Ronald McDonald. J'avais un rendez-vous avec Mario Tremblay à l'époque. J'avais 14 ans.
Oh.
Puis je me souviens que j'ai bégayé. Puis je me souviens que j'ai transpiré, que j'avais les mains moites. Je me souviens que mon cœur voulait sortir de mon corps. Je me souviens que... Quand je suis rentré dans le Ronald McDonald, c'était sur la rue Saint-Jean, je me souviens que... Puis là, on a un billet là, dans ce temps-là. Là, on se dit, ah, tout le monde sait qu'est-ce que je m'en viens faire ici. Je me souviens que quand je suis rentré, tout le monde me regardait. Les caissières puis les cuisiniers me regardaient. Mais eux autres, ils regardaient juste un client. Mais moi, dans ma tête, ils me regardaient parce que j'allais passer un... J'allais à l'abattoir. Là, c'est moi qui allais finir en croquette. Après ça, il m'a invité dans son bureau en arrière. Puis là, il m'a posé une multitude de questions. Mm-hmm. Mais il me l'a fait porte fermée.
Ce qui est l'idéal.
Puis j'ai trouvé ça dur. l'entrevue porte fermée. Oui, parce que tu réponds à des questions, mais tu n'as pas d'expérience. C'est la première fois que tu rencontres quelqu'un pour qu'il t'embauche.
C'est mieux que porte ouverte.
Là, toi, tu veux te faire embaucher, mais je me souviens que je bégayais énormément.
Petit loup.
Que j'avais de la difficulté à m'exprimer, que je voulais me sauver.
C'est dur être jeune!
Ouais. Et hier, petit gars de 14 ans à peu près, dans une pharmacie, on est peut-être 10-12 dans le fil. Puis là, je m'aperçois qu'il y a deux caisses, mais il y a une caisse qui est monopolisée par une jeune femme qui est autour de 18-19 ans, puis qui reçoit un jeune garçon de 14 ans qui vient porter sa demande d'emploi. Oh. Mais là, elle parlait pas fort, la fille. Puis le petit gars parlait pas fort, mais on était à côté. C'était à un pied et demi de nous autres.
Fait que tout le monde regarde, tout le monde écoute.
Fait que tout le monde regarde, tout le monde écoute, tout le monde trouve ça cute. Mais le petit gars, il répondait là, au plus d'une façon extrêmement sincère. Moi, j'aurais fondu en deux.
Il était bon?
J'aurais fondu. Merci, c'est fini, la flaque.
Entre les craques du plancher, ben oui.
Puis oui, je suis jeune, mais j'ai pas beaucoup d'expérience. J'ai travaillé un petit peu pour mon père, j'ai fait des gazons. Mais je veux travailler, je veux faire des heures ici. J'aime ça, la pharmacie. Puis la fille posait des questions comme s'il était seul. Je salue ces jeunes-là qui veulent travailler à 14 ans.
Moi, je trouve ça écœurant.
Je savais même pas s'il y avait le droit de faire une demande.
Je pense que maintenant, oui, avec l'approbation du parent, oui, oui.
Avec un nombre d'heures là,
ouais,
qui est
exact,
inscrit,
limité,
tout ça.
Puis,
ouais, mais j'ai trouvé ça vraiment cute.
Mais c'est chou à mort. Par exemple, moi, être la petite fille, je l'ai ramenée un peu plus loin, là, un petit peu d'intimité.
Est-ce qu'on voit que c'est une petite fille qui n'a pas d'expérience non plus? 18
non, c'est
ans.
Ça, c'est ça.
Là, elle a un petit gars de 14 ans. Ils ont juste 4 ans qui les séparent. Fait que là, elle pose des questions, puis tout le monde entend. Puis tout le monde écoutait les réponses du petit gars. Puis on avait tout un sourire d'en face. C'était cute à
voir. Ah, c'est mignon. J'espère qu'il va l'avoir, la job. Mais c'est tellement... Tu sais, à cet âge-là, là, c'est comme la première fois où tu fais face à une autre autorité que tes parents. Bon, puis l'école, tu vas me dire, mais tu sais, quelqu'un qui a un peu ton genre de destin des prochains mois entre les mains, c'est là que tu t'affirmes pour la première fois, que tu te représentes toi-même comme personne, tu sais.
Ouais.
Hey, c'est tough, là!
Puis le fait qu'il soit seul, le petit gars, puis que ses parents l'accompagnent pas, je trouve que c'était tout à son honneur.
Ben, il faut, parce que ça fait partie de ce que tu dégages aussi. Probablement que les parents ils ont fait le speech là-dessus, là. Là, tu vas serrer la main, tu donnes ton CV,
mais
tu te tiens droit.
Ça m'en dit beaucoup sur les parents,
mais
parce que
sûr.
De plus en plus, ce que les employeurs me mentionnent, des chums qui sont en affaires, c'est ça arrive souvent que le jeune de 16 ans, 17 ans vient avec ses parents pour l'emploi.
Ouais. Il y en a beaucoup qui vont mettre leur CV aussi via des plateformes sur Internet qui se présenteront pas.
Sur des Spotted, tu sais, Spotted Beauport, Spotted Val-Bélair, Spotted Québec, Spotted de Charlebourg, il y a des parents qui écrivent sur la page Spotted, mon enfant de 16 ans cherche un emploi.
Ça, je trouve ça
ridicule. Y a-t-il des employeurs qui pourraient lui procurer... Tu veux bien faire pour tes enfants, mais t'es une nuisance totale.
Ouais. Moi, on dirait que, puis peut-être que c'est arriéré parce que je sais que maintenant, ça fonctionne beaucoup, beaucoup via les internets. Là. Mais moi, mettons, là, je tiens encore à ce jour à me présenter en personne, donner ma main en personne, faire tu comprends, la poignée de main qui a quand même une bonne force pour... Je suis droite, je suis jeune, mais je suis droite, puis je veux tellement pouvoir enseigner ça à mes enfants, là. D'aller regarder dans les yeux quelqu'un puis d'y signifier ton intérêt.
Ouais.
Je trouve que c'est tellement important dans un processus d'emploi.
C'est
là.
Une job de parent, puis parfois, ben, tu sais, moi, comme j'étais timide, puis j'ai jamais initié mes enfants à ma timidité. Là. Mais j'en ai un, mon plus petit, qui est le plus clown de la gang, mais timide comme pas possible. J'espère qu'il va être capable de faire le step supplémentaire pour aller se présenter devant l'employeur lorsqu'il aura 14 ans.
Mais donne-lui des petits défis.
Salut, mon petit nom, c'est Zach. Je vais travailler pour toi. Je trouve ça intéressant. Le jeune d'hier, là, il m'a ramené en arrière dans ma nostalgie de mon premier emploi. Là. Puis comment je me sentais lors de mon premier rendez-vous avec mon premier patron. C'était ma première entrevue, mon premier patron.
Il a dû te faire penser à tes gars, justement, puis à ce qui s'en vient pour eux autres aussi. Là.
Ah, je ne sais pas. Mais je salue les parents de ce gars-là. Je sais pas. C'est,
ils ont bien fait leur
Pharmacie Jean Coutu, Val-Bélair, il devait être 18h30, hier 19h. J'ai trouvé ça cute à
adorable.
Mort que le petit gars se présente seul à la pharmacie et qu'il passe une entrevue devant tout le monde. Hey, du 22 au 24 août 2025, venez vivre le plus grand événement de vélo de montagne à Québec avec le raid de Bras du Nord. C'est avec Pro Mutuel Assurance, bien entendu, et ça se passe à Saint-Raymond. Ça va être une super belle activité. Que vous soyez cycliste amateur ou encore un passionné, vous trouverez votre bonheur à travers nos trois journées d'activités sportives. Il y y a le défi corporatif. Il y a plusieurs défis. Le défi corporatif, c'est un relais amical de 5 km entre collègues, suivi d'un 5 à 7 festif, 100 % Portneuvois. Un défi accessible à tout le monde où le plaisir est au cœur de l'expérience. Après ça, bien, il y a la course RBN, donc 5 distances de 20 à 75 km à parcourir dans les sentiers spécialement aménagés pour l'événement. Et il y a la journée famille aussi, qui est une super de belle journée. C'est pour les enfants de 2 à 10 ans. Tout est aménagé pour eux autres. Ils vont passer un moment incroyable, puis il va y avoir des souvenirs comme pas possible de cette journée-là. C'est l'occasion de faire vivre aux tout-petits l'expérience unique d'un vrai départ et d'un podium bien mérité. Et c'est pas tout. En plus des épreuves sportives, bien, vous allez profiter d'une ambiance festive, gratuite, spectacle, animation, démonstration, bonne bouffe locale et beaucoup de sourires. Inscrivez-vous dès maintenant sur redbrasdunord.com. Red, A-R-A-I-D, brasdunord.com, redbrasdunord.com. Qui sera notre prochain invité?
Paul Lévesque, magnifique. On va parler des réactions devant l'échec aujourd'hui.
Spécialiste du comportement humain.
Oui, oui.
Psychologue à 16 heures.
Ah oui, oui. Bien, nous autres, on est en thérapie à peu près deux semaines.
Toujours en thérapie. Je veux l'appeler docteur, mais elle me
dit
que... Non, elle veut pas.
Bon, c'est correct.
Elle dit ça prend des diplômes pour ça. Genre, c'est vrai, ça.
Ah, mais elle a l'expérience qui vaut un diplôme, ce statut, je pense. Là.
Donc, on va parler de quoi?
On va parler de nos réactions devant l'échec. Réactions qui sont souvent très négatives, mais y a-t-il du positif aussi devant l'échec à suivre?
Merci beaucoup. Les Dale Watcher qui arrivent avec Megastar. Sinon, s'il se passe quoi que ce soit sur la route, d'ailleurs, il y a des camionneurs qui s'amènent à Québec, on les salue. Le numéro de téléphone par texto, c'est le 88-971-1021. 88-971-1021. Passez une super de belle journée, les amis.
Sado, vélo montagne, randonnée, arrêt gourmand, festival et événements, tout y est pour bouger et s'émerveiller. Nature, plaisir et surprise au rendez-vous. Les Etchemins proches, gourmands et surprenants. Planifiez votre aventure sur tourismeetchemin.qc.ca. Tourisme Etchemin, c'est la nature à portée de route.
La nouvelle façon de bouger à Québec, c'est chez Nubé Pilates. Devenez la meilleure version de vous-même à l'intérieur et à l'extérieur grâce au Pilates, un sport à bas impact qui vous fait gagner en force, en mobilité et en contrôle. Studio ouvert à tous. Visitez nubépilates.com.
Est-ce que vous connaissez le Collège des hauts sommets, une école privée selon laquelle on pourrait prendre exemple pour notre système public, selon moi, là. Une école qui est mixte avec résidence scolaire aux besoins. La spécialité du Collège des hauts sommets, ben, ce sont les élèves avec handicap, avec difficulté d'adaptation, avec difficulté d'apprentissage. Puis on va se le dire, on connaît tous quelqu'un qui a un enfant qui vit avec des difficultés scolaires. Ça peut en passant être un simple besoin d'encadrement supplémentaire. Pas obligé d'être des énormes défis non plus. Le Collège des hauts sommets est là exactement pour ça. Évidemment, on ne peut pas aider tous les élèves au Québec qui ont besoin de ce genre d'aide-là. Mais il faut savoir que ce qui fait notre force au collège, bien, c'est les ressources. On en a plus qu'ailleurs, on mise là-dessus. Les élèves suivent le programme régulier du ministère. Ils ont un diplôme d'études secondaires qui est accessible à la fin du parcours, mais ils sont accompagnés constamment par tout plein de professionnels. Et je vous parle du Collège des hauts sommets ce matin parce que pour aider nos futurs élèves dans leur parcours, dans leurs besoins, bien, on a des bourses d'études. Il faut les financer, ces bourses-là. On a une nouvelle campagne qui s'appelle « Donner la réussite ». 100 % des fonds qui sont amassés vont être remis aux bourses d'études. Deux façons de contribuer, de donner. Il y a le don ponctuel, le don régulier, donc, et il y a le don mensuel, donc des petits montants par mois. Peu importe le montant du don, cette campagne-là, c'est une belle façon d'entrer dans le monde de la philanthropie. C'est une école qui crée énormément de changements auprès des jeunes. Pour vous donner une idée, on aide des élèves de 36 municipalités couvrant 9 régions administratives cette année. Donc, pour faire un don, c'est simple, www.collegedeshaussommets.com.
Audrey Pinchot.
Ah, quelle belle journée on a. Beaucoup de camions qui s'en viennent vers Québec, c'est ce qu'on nous mentionne.
Sont rendus en Beauce.
Ben, techniquement, il y a des gens, en fait, sont pas rendus en Beauce. C'est des camions de la Beauce qui descendent vers Québec. Okay, on a des camions qui sont sur la rive sud, qui descendent par la 20. Et il y a énormément de camions, nous dit-on. Plus d'une centaine qui ont été aperçus sur la 40. Tout ce beau monde-là s'en vient vers Québec.
Hey, il y a un auditeur qui nous dit on a au moins vu 250. Je sais pas si
ça,
c'est
sur la 20.
Un peu, là, sur la 20, mais c'est beaucoup de camions. Là.
Exact. C'est la même chose sur la 40. Ils vont prendre boulevard Charest parce qu'ils arrivent par l'autoroute Charest. Par la suite, ils vont descendre sur Saint-Sacrement pour aller chercher boulevard Amel pour passer devant la Brobouffe. Je sais que toi, tu sais pas c'est où nécessairement, mais la plupart des gars savent c'est où. Oui, c'est comme la petite maison rose sur Pierre-Bertrand.
Oui, exact. Je pensais que c'était une garderie, hein, sais-tu, quand j'étais jeune.
tu pensais que la broussaille, c'était une garderie.
Absolument. C'est un salaire de château.
Peut-être que certains employés de la broussaille croient qu'ils travaillent dans une garderie.
C'est une garderie pour hommes.
Exactement. Exactement. Donc, ils vont prendre le boulevard Hamel. Par la suite, ils vont aller chercher une route, j'ai perdu le nom, mais on va retourner en ville par la 73 du boulevard Hamel. Puis, on va arriver directement en ville. Et après ça, on va monter en Haute-Ville pour aller chercher, pour aller directement en face de l'Assemblée nationale. C'est plus de 2000 camions qui sont attendus. Donc, on vous salue, les amis. Bienvenue dans notre belle ville.
Oui.
Et là, j'ai plein de commentaires qui rentrent concernant les camions. Ben oui, il y a des camions qui s'en viennent. OK.
C'est impressionnant, en plus.
Oui, notre invité, on l'aime beaucoup, c'est Paul Lévesque, spécialiste du comportement humain. On parlait de nos réactions devant l'échec juste avant sur la route.
Ben en fait, je réalise que ça fait du sens avec tout ce dont on parle depuis tantôt, mais vous comprendrez que tous ces camions-là, à la queue leuleux, ça a 20, ça crée quelques ralentissements. Fait que sur la 20 direction ouest en ce moment, entre la route du président Kennedy et Taniata, on observe déjà des petits problèmes de circulation.
Ma belle Paul, t'aurais pu profiter de ta belle journée aujourd'hui, prendre du soleil, puis finalement, ben, t'as décidé de t'en venir en studio avec nous autres. C'est un plaisir de te recevoir.
Ben, c'est parce qu'il y a du soleil ici aussi.
Ah, il y a du soleil.
C'est beau. Tu vois?
C'est Audrey qui procure ça chez toi.
Oh, t'as une...
T'as un aura.
T'as un charisme quand même.
Ah oui, bon, ouais. C'est gentil.
Je m'attends. Il voulait un compliment.
Ben ouais.
Pas à temps plein, mais quand même, il est là.
Là, aujourd'hui, on parle de l'échec, OK? Nos réactions face à l'échec, nos peurs face à l'échec. Pourquoi on a peur de changer notre vie? Parce que bien souvent, on a peur de se planter. On se dit, hey, on est aussi bien d'accepter la petite vie misérable qu'on a au travail plutôt que de quitter notre travail puis en choisir un autre qui est encore pire que celui-là qu'on a. Tu sais. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'échec et ça empêche les gens de progresser.
Aujourd'hui, je parlerai d'un grand homme.
Oh, c'est gentil encore.
D'un grand homme qui n'est pas assis devant moi. Ah, je le précise quand je lui vais à face. Mais tu l'aimes. Je verrai si ça fait partie de tes passions. C'est Nelson Mandela.
Mandela, 27 ans en prison, capoté. Hein? Il luttait contre l'apartheid, puis il a été foutu en tôle pendant 27 ans. À tous les jours, il lisait son poème « Invictus », invaincu. Et par
tu
la
l'as
suite,
pas tatoué à quelque part?
Je l'ai tatoué sur le corps.
C'est ça, oui.
Pour vrai?
Oui.
Ben oui, il est là.
Oh mon Dieu,
bon,
Seigneur.
Là, j'ai l'air d'une fille qui connaît son corps, mais je veux juste dire qu'il me l'a montré en partie lorsque c'était nécessaire.
Des fois, j'envoie des petites photos à Paul le samedi. Donc,
c'est pas juste en gros, tu l'as vraiment de tu exact.
Ah, oui, puis après 27 ans, il est sorti de tôle puis il est devenu président de son pays. Capoté raide.
Moi, là, tu sais, je dis souvent en conférence que c'est un des hommes de ma vie que j'ai. Il est mort avant qu'il sache que je l'aimais à ce point. Et il a dit quelque chose qui, encore aujourd'hui, est toujours un prémisse à ma réflexion, c'est « il n'y a pas d'échec. Tu réussis ou tu apprends. »
C'est beau, hein?
Et moi, toutes les fois que je suis devant une difficulté, un échec, une erreur, tu sais, mais tu as toujours des réflexes personnels, tu sais. Il y en a qui vont se refermer, il y en a qui vont se remettre en doute, il y en a qui vont arrêter de bouger, comme tu disais, Yann, parce que si je fais rien, je préviens l'échec. Fait qu'il y a des gens qui ont vécu des échecs puis se disent « je ferai plus rien », fait que je vais être sûr de ne pas en vivre. Mais
il y en a qui refusent de quitter leur conjoint, leur conjointe, parce qu'ils ont peur de ne pas en retrouver un qui est mieux.
Bien, la peur et l'insécurité, c'est toujours une mauvaise conseillère. Et puis, la plupart du temps, ça se transforme en opportunité. Puis, moi, aujourd'hui, ce que je voulais qu'on jase, c'est quels sont les moyens pour ne pas rester collé sur l'échec, pour justement être capable de favoriser des passerelles au lieu des fossés.
Ça se peut-tu que des fois, l'échec, ce qui fait qu'on est... qu'on le vit durement, c'est que c'est pas nécessairement un échec pour nous plus que la peur de décevoir autrui, mettons. Je sais pas si ça fait du sens, mais moi, je réalise que quand j'étais plus jeune, la peur de l'échec que j'avais, puis c'est pas en passant, je tiens à le mentionner, c'est pas qu'on m'imposait des balises avec mes parents, c'est pas ça, là. Mais j'avais tellement d'admiration pour mes parents, la façon dont ils mènent leur vie, là, que j'avais peur de les décevoir plus que d'échouer en soi. Ça fait-tu du sens?
Ça fait du sens. Ça veut dire qu'il y a un profil d'anxiété de perfection. C'est-à-dire qu'on ne se donne pas beaucoup le droit à l'erreur. Et dans ce « pas le droit à l'erreur-là », c'est la peur de blesser, c'est la peur de ne pas être à la hauteur, c'est la peur de décevoir dans ce cas-ci. Donc, souvent, c'est des gens qui sont très perfectionnistes, qui ne se donnent pas le droit à l'erreur. Puis, ils n'ont pas envie, justement, que cette erreur-là fasse qu'autour d'eux, on change d'opinion, on les déçoive. Tu sais, chez les enfants qui sont perfectionnistes, il y a souvent la peur de décevoir nos parents, là. Souvent.
Puis est-ce que c'est inné ou acquis ces réactions-là face à l'échec?
C'est tout ça. En fait, le comportement humain se divise en trois parties quand on veut le comprendre. Un, c'est l'hérédité, la génétique. Tu viens au monde avec des yeux bleus, verts, mais une prédisposition. OK? Le deuxième, c'est l'éducation, qui va soit favoriser ou défavoriser certains éléments, et les événements de la vie. Donc, tantôt, tu me disais que vous avez déménagé je ne sais pas combien de fois. Ça a influencé ta vie positivement sur certains éléments, sur d'autres, moins. Mmh. Au fond, ce qu'on doit se dire, c'est je dois faire des erreurs, je dois vivre des échecs parce que ça me prouve que je suis en vie. Maintenant, la façon dont je vais le vivre va devenir une opportunité ou un gouffre dans lequel je vais rester avec mes peurs. Tu sais, c'est... Il y a des moyens pour faire face aux erreurs et aux échecs. Puis il y a des spectres, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont à une extrémité, c'est-à-dire que « Oh, je fais une erreur, je m'en fous, puis ils en font mille, puis ils apprennent pas. » Vous devez connaître des gens qui, de tous les âges, ils font toujours les mêmes erreurs parce qu'ils apprennent pas. Tu comprends? Puis il y a l'autre bord, les gens qui sont momifiés, qui disent « Je ne bougerai plus. Moi, je ne fais plus rien. » Parce que j'ai peur ou je ne veux pas décevoir ou... Tu sais? Puis quand on est positif, on va dans notre répertoire de vie puis on choisit des événements qui vont nous botter le cul puis qui vont nous donner le goût d'avancer. Ou on va dans notre répertoire où on a fait des erreurs et des échecs, ce qui nous amène à dire « Oh non, moi, je ne vais plus là. Moi, je ne vais pas là. » Au lieu de dire « Ouais, mais je peux y retourner? J'ai appris quelque chose.
Mm-hmm. »
Ayez le réflexe de toujours vous demander quand vous êtes devant un échec ou une erreur « Qu'est-ce que j'ai appris? » Ça devrait être notre premier réflexe.
Ça dépend où vous êtes sur le spectre, mais si vous êtes du côté des gens qui prennent jamais de risques, mais qui un jour veulent changer leur vie parce qu'ils sont pas heureux et satisfaits de leur vie-là, bien, inspirez-vous de gens qui ont fait une multitude d'échecs puis qui aujourd'hui sont considérés comme étant des personnes qui ont réussi dans la vie. T'sais. Combien d'artistes ont essayé pendant des... je pense que c'est Lady Gaga. Lady Gaga,
oui,
c'est un des meilleurs exemples.
Oui.
Elle a tenté de percer sous son vrai nom. C'était une chanteuse classique, là, plutôt classique.
C'était, oui, absolument.
Puis c'était une virtuose en passant.
Oui.
Et à un moment donné, elle a rencontré une genre de designer.
C'était Stéphanie Joanne Angelina, pour vous donner une idée, là, son vrai nom.
Ouais. Puis là, à un moment donné, elle a rencontré une designer. Puis la designer a dit « OK, regarde, on va te dessiner un personnage. » Puis ça a été à partir de ce moment-là
c'est
qu'elle
vrai.
A commencé à être connue, alors qu'elle était tout aussi talentueuse. C'est juste qu'elle a mis des ingrédients dans sa personnalité. Donc, elle est devenue un personnage, Lady Gaga. Puis ça a scoré du jour au lendemain. Là. Mais combien de fois elle s'était plantée avant? T'sais, elle avait le même talent. Son talent n'est pas arrivé quand elle est devenue Lady Gaga. Là. Elle a essayé, elle s'est plantée. Elle a rencontré quelqu'un, pouf! La flamèche est partie puis est devenue la star qu'on connaît aujourd'hui.
Tu sais qu'il y a un adage qui dit « À force de se planter, on devient une fleur. »
Hein?
Oui.
C'est beau, ça!
C'est quand même bon, hein? À force de te planter, tu deviens une fleur. C'est-à-dire que tu finis par fleurir. Mais l'idée, c'est comment elle a géré. Si elle avait mal géré sa première fois, elle serait pas Lady Gaga.
Exact.
C'est comment. Puis si vous avez envie, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici, mais vous pouvez aller sur Google, googler les nuls qui ont réussi.
Les nuls qui ont
réussi. OK? Vous allez avoir plein d'histoires de gens qui se sont plantés beaucoup, beaucoup, beaucoup avant de devenir une fleur.
Ça prend du caractère, puis de la force, puis les reins solides, parce que souvent, ça joue sur l'estime, là.
Bien, moi, je dirais que ça prend une vision. Une vision de... Je suis capable d'y arriver et je dois apprendre. Tu sais, peu importe dans la vie, est-ce que tu as appris du premier coup à conduire? Est-ce que tu as appris du premier coup? Là, dites-vous une chose. Tout le monde qui nous écoute, là, puis ensemble, ici en studio, si on avait démissionné devant l'échec de ne pas marcher la première fois, on serait tous en chaise roulante.
C'est vrai.
Non, mais c'est ça.
Ça veut dire que tu as tellement raison.
Tu aurais une couche parce que tu n'aurais pas réussi. La première fois qu'on est allé, c'est typo ou sa toilette avec le tibère. Ça n'a pas marché, là. Mm. On aurait toutes des couches en chaise roulante.
On est niaiseux. Et qu'on est niaiseux, je trouve.
C'est ça, le répertoire positif. C'est va dans ton répertoire. Un enfant qui apprend à marcher, là, ça y prend je ne sais pas combien de fois. Il ne se dit pas, pense que ça ne marchera pas, mon affaire. T'es aussi bien de rester assis. T'es bien de marcher à quatre pattes, ça ne marchera jamais. Puis des fois, les gens me disent, oui, mais pauvre, j'en ai pas de répertoire. Tu sais, j'en connais pas de mes histoires où ça me donne comme du levain. Je dis, ben voyons donc. Tu sais, depuis que t'es au monde, il y en a des milliers. Puis des fois, je dis aux gens, asseyez-vous là, puis partez de votre naissance, puis écrivez ce que vous avez acquis. La parole, tu sais, commencez tout petit. On a tous... Puis pourquoi on réussissait? Parce qu'il y avait des gens autour qui nous disaient, t'as pas le choix. Ben, ils disaient pas de même, mais tu sais, ils disaient, OK, relève-toi, viens-t'en. Hein? Puis là, l'enfant reste assis, puis il veut pas. Non, non, on se lève debout. On... Tu sais, il y avait comme un pas le choix. Puis avez-vous remarqué que... Moi, je fais de la consultation avec des gens qui ont des cancers, toutes sortes d'affaires. Puis il dit, souvent, ces gens-là me disent, « Paul, je veux pas qu'on me dise que je suis courageux. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix de me battre si je veux rester en vie. C'est pas du courage. C'est devant un pas le choix. » Bien, c'est un peu ça quand on était jeune, c'était devant un pas le choix. Nos parents nous ont pas donné le choix d'apprendre à marcher, à, bon, etc. Fait que encore aujourd'hui, on peut aller dans ce répertoire-là puis se dire... Puis je vous dis, commencez toujours par dire « Je suis un trou de cul, je suis pas fière de moi. » Tu sais, faites-vous plaisir pendant 48 heures. Pas plus. Mettez votre X sur le calendrier, dire « J'ai le droit à 48 heures pour dire que je suis un trou de cul, que je suis un mange-marde, que je... » Tu sais, vas-y.
C'est ça, la tête.
Il y en a qui s'auto-détruisent comme ça.
Hey, oui, absolument. Puis je pense que c'est un réflexe de dire, voyons, maudit, je l'ai donc bien échappé. Ou tu sais, ton premier réflexe, ça ne sera pas de dire, oh, monsieur, j'ai bien aimé ça, mon erreur. Hey, si quelqu'un me dit ça, je me dis, c'est un maudit menteur.
Moi, ça m'avait frappé parce qu'on m'avait déjà dit, puis peut-être que je te l'avais dit, je radote peut-être, vous me le dites, OK. Je pense que, Paul, je t'avais déjà partagé le fait qu'on m'avait déjà donné l'exercice d'écrire toutes les insultes que tu peux te donner au quotidien. Tu sais, les phrases rapides, ah, c'est je suis niaiseuse, ah, c'est donc.
Ah, oui.
Puis après ça, on m'avait confronté puis on m'avait dit « Hey, ça, tu dirais-tu ça à ta meilleure chum? Ou à ta mère? Oui. Ou à une collègue? Ou Tu t'es trompé, maudite conne? » Non, tu sais, fait que...
Il y en a qui le disent, mais c'est pas une bonne affaire.
Non,
mais c'est
de relativiser.
On est très sévère envers nous-mêmes, mais donnez-vous cette permission-là. Je vous le dis, faites l'exercice. 48 heures, tu te dis « Garde, je fais de l'écriture automatique. Mm. » Je me donne la permission d'être en colère ou en déception, parce que c'est ça, être humain. On dirait qu'on passe trop vite... Puis après 48 heures, là, commencez par vous dire, OK, là c'est, tu sais, j'ai fait le tour, là. Qu'est-ce que j'ai appris? Puis tu sais, je pourrais te donner un exemple, je ne sais pas si je l'ai déjà donné. Un jour, en conférence, je donne des statistiques. Je vous l'ai-tu déjà dit? Je pense pas. Je donne des statistiques. Je suis en train de parler de l'éducation des enfants, puis je donne des statistiques, mais je n'ai pas mes sources. Et dans la salle, il y a un actuaire.
Oh!
Ben oui, c'est ça, tu sais. Et puis lui, c'est un actuaire opposant. Donc, il a envie de s'opposer à moi publiquement parce que tu peux être actuaire, mais pas nécessairement opposant.
Ces gens-là,
Et devant tout le monde, à chaque fois que... Puis il y a des conférences que tu en donnes moins, mais il y a des conférences où tu vas faire des rappels à l'ordre sur certaines statistiques, sur...
Bon. Sais-tu comment tu fais pour déterminer qui est l'actuaire dans une foule de 25 000 personnes? Il vient te le dire.
C'est très drôle.
Il y a des actuaires le fun.
T'as pas à chercher.
Ben, le pire, c'est que lui, il l'a dit beaucoup pendant la conférence,
ben oui.
Devant tout le monde. Et il me disait toujours, vous tenez ça doux. Puis là, il m'avait grondé sévèrement devant les autres. C'était pas mal au début, là, tu sais, de ma carrière, où il m'a dit, ça prend des sources. Bon, puis il met devant tout le monde. Puis il était venu me voir après, puis il n'avait pas été fin. Des fois, il vient de me voir après pour dire, ben c'était une technique d'impact, mais lui, il avait dit, si vous donnez des conférences, vous ne pouvez pas vous permettre, bon, etc. Quand je suis arrivée, là, je l'avais maudit. Écoute, je me suis donné 48 heures, puis je l'ai maudit beaucoup, beaucoup, là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis après ça, je me suis dit, qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce qui me permet? Quand avoir vécu un moment de merde, d'avoir eu honte, d'avoir... Qu'est-ce que j'apprends? Bien là, je te le jure, qu'à partir de ce jour-là, j'ai pas une, j'ai trois sources. Je les photocopie toujours, puis je les garde toujours. Puis depuis ce temps-là, jamais plus personne ne me l'a demandé, parce que quand j'arrive, c'est comme si j'avais un dégagement qui dit, demandez-moi-les pour le fun.
Ouais, une aisance, une confiance de plus, oui. De je sais de quoi je parle.
Mais grâce à lui, j'ai appris quelque chose. J'aurais voulu l'apprendre d'une autre façon, mais grâce à lui, puis je pense que 27 ans plus tard, parce que je suis conférencière depuis 27 ans, je pense que je suis devenue vraiment meilleure. J'étais déjà bonne, mais je pense que je suis devenue meilleure à cause de ça aussi.
Puis tu sais, Paul, je jasais il y a ça quelques semaines avec un humoriste dans Marceau Soir, je le nommerai pas parce qu'il me l'a pas dit en onde, mais tu sais, quand tu parlais de la peur de l'échec, là,
oui.
Lui vivait cette peur-là constante. mais il y avait une force, c'est que le lendemain était un nouveau jour, puis il se réessayait. C'est un gars qui avait énormément de blanc de mémoire lors de ses premiers spectacles d'un bar. Tu sais, tu as 20 personnes qui sont en face de toi, 30 personnes qui sont en face de toi, puis là, tu veux être le plus drôle possible, tu es le troisième, puis là, tout d'un coup, il y a quelqu'un que tu regardes, il te regarde, tu as un malaise, puis là, tu oublies ton texte. Bien, tu perds la face devant ces gens-là, puis après ça, tu t'en vas. Puis le lendemain, tu te relèves. Tu dis, Créfière, ça n'avait pas été ma belle soirée. Tu trouves une autre place à Montréal ou à Québec pour aller faire ton show d'humour. Puis aujourd'hui, il est très reconnu, cet humoriste-là. Puis il gagne super bien sa vie. Puis il me dit, Anne, maintenant, je fais mes spectacles devant 2000, 3000, 4000 personnes. Ça ne me dérange pas. Puis même pendant mon spectacle, pendant que je fais mon texte, pendant que je suis drôle, pendant que les gens sont très réceptifs, je suis en train de me faire ma liste d'épicerie pour ce que je vais acheter demain chez Métro pour ma journée.
T'es fou, hein?
Lui, au début, là, il a rushé constamment. Il avait comme le sentiment d'autodestruction. Là. Tu dis, quelle soirée de marde, j'ai oublié mon texte. Il repartait chez eux. Puis le lendemain, c'était une nouvelle journée, puis il se réessayait encore.
Imagine, il n'aurait pas arrêté, puis il n'aurait jamais eu la carrière qu'il avait eue.
Puis il m'a dit quelque chose. Il dit, jusqu'à temps que je me dise, mais c'est quoi le pire qui peut arriver? C'est que je fasse la même affaire qu'hier. Puis à un moment donné, le stress a parti. Puis il est capable maintenant de faire tous ses spectacles. Il se souvient encore de son premier spectacle, il est rendu, je pense, à son quatrième ou cinquième. Il est capable de faire tous ses spectacles en ligne sans rater une ligne. Puis pourtant, les premières semaines qu'il voulait être humoriste, t'es pas capable de faire ses shows devant 10, 15, 20 personnes.
Ouais, puis tu sais, dans cette histoire-là, c'est pas la mémoire qui faisait défaut, c'est le doute.
Mm-hmm. Ben oui.
Tu te mets à douter parce que je suis drôle, c'est-tu. Puis là, t'as un cœur obèse, c'est-à-dire le cœur prend toute la place, puis là, t'as plus accès. On appelle ça des blackouts. Tu sais, quand t'es nerveux, stressé, pas bien, en malaise, ben le cœur devient obèse, puis il devient tellement gros qu'il t'empêche d'avoir accès à ton discernement, à ta logique, et t'as des blackouts de mémoire aussi. Tu sais, puis ça, c'est un malaise. Puis moi, je le suis, sa scène, là, très souvent, quand même, je fais plus de 200... Et beaucoup trop de conférences, finalement, selon ce que mon chum dit.
J'ai pas de vie,
200 et 250 par année. Puis, bon. Puis l'idée là-dedans, c'est, ben quand t'es tout seul sur scène...
C'est toi contre le monde, là.
C'est moi contre... Puis quand j'ai fait les enregistrements télé pour Télé-Québec, là, à l'émission où je suis, Luca et Léo,
ouais.
Puis tous les autres autour, ils étaient habitués à... On a une reprise... Moi, j'avais jamais besoin de reprendre. Pas parce que j'étais meilleure que les autres. C'est parce que quand je suis sur scène, puis que je fais une bévue, je peux pas dire « je recommence ». Quand j'étais à radio, live, je peux pas dire « je recommence ». Mais là, j'ai vous autres. Mais quand je suis sur scène puis je suis toute seule, ben je dois m'en sortir. Je dois me sortir aussi parce que s'il y a 500 personnes devant moi puis qu'il y en a deux, trois qui disent des affaires, c'est pour ça que je me fais une tête. Je vais lire sur tout ce qu'il y a sur le sujet pour me faire une tête. Tu sais, des fois, vous dites, Paul, t'arrives toujours avec tes feuilles. Oui, je me suis fait une tête. Je suis jamais mal pris. Mm. Bien, je peux l'être, là, mais je veux dire, je peux vous suivre. Tu sais, je suis pas... Puis ça aussi, ça fait partie d'être capable de faire face à l'échec et à l'erreur. Prépare-toi donc pour t'en sortir. Tu sais, l'idée, c'est de faire le moins d'erreurs possible, ou en tout cas, d'être capable de récupérer l'erreur. D'être capable de la récupérer et qu'elle devienne une opportunité. J'ai déjà fait une conférence où j'avais un chemisier de soie. Toi, je te l'ai déjà compté, puis tu en as déjà profité.
Moi, j'ai jamais entendu.
J'avais un chemisier de soie, et un chemisier de soie, ça se déboutonne facilement. Je te vends pour mal faire une grosse auditorium, ce sont au moins 400 personnes, et je suis en train de jaser, puis je parle beaucoup avec mes mains, hein, vous me voyez, vous autres, là. Et le premier bouton déboutonne, et le deuxième déboutonne.
Personne te le dit?
Je m'en rends pas compte.
Ah, voyons donc.
Oui, oui.
Auditoire de marque.
Je bouge, j'ai une chemise de soie, là, qui est ouverte vis-à-vis de la poitrine, et je parle. Et là, tout d'un coup, je m'en aperçois. Je suis seule sur scène. Personne ne me l'a dit. Mais ils sont tous en avant, puis ils l'ont toutes vu. Hey, écoute... Pour moi, ça, c'est comme un échec monumental. Écoute, tu te promènes quasiment tout nu devant le monde. Mais en tout cas, dans ma tête, là, tu sais, t'es en...
Tu l'as-tu adressé?
Écoute.
J'espère.
C'est là que la difficulté devient une opportunité. Et c'est là que tu viens puncher. Et c'est là que tu fais la différence. Quand Lady Gaga, ça marche pas, elle devient un phénomène que personne d'autre a exploité. C'est là que ça devient une opportunité. Alors, ce que j'ai fait, j'ai arrêté la... Moi, j'ai bien de la misère à faire semblant. Quand il se passe quelque chose, je le nomme. Mmh. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dit, vous êtes assez rincé l'œil, ça vient de se terminer maintenant. Je me suis retournée, j'ai pris le temps d'attacher mon chemisier, je me suis retournée, j'ai dit, merci beaucoup tout le monde, si vous n'avez pas parlé, c'est ce que vous avez vu était très satisfaisant, donc merci beaucoup. Puis les gens se sont mis à m'applaudir, puis j'ai continué. Il y a ça aussi, quand tu nommes le malaise, quand tu l'assumes, des fois, je fais des coquilles. Je fais tellement de... Puis j'ai pas d'excuses à avoir. Mais des fois, il va y avoir une coquille sur mon PowerPoint. Des fois, c'est des affaires de fou. Pas parce que je le savais pas, mais tu sais, des fois, t'es fatigué, bon, etc., tu te relis, mais je l'assume. Si quelqu'un me le dit, je l'assume. Hey, quand je suis dans un colloque, c'est rien que des profs et des directions d'école, là, c'est sûr que ma coquille va paraître. Puis là, je la sais, puis je vais faire deux autres groupes dans la journée. Je le dis en commençant.
Mm-hmm.
Je vous amène en Floride celui qui trouve ma coquille.
Hey boy!
Ben, ça provoque ça. Il rit, il trouve ça drôle. Bon, tu sais.
Mais c'est que t'enlèves ton malaise, mais t'enlèves le malaise des autres aussi.
Oui. Et là, t'es moins à risque d'échec.
Ouais.
T'es moins à risque d'erreur. Parce que mon chemisier, si je l'avais pas assumé avec humour, j'aurais été tellement mal à l'aise que j'aurais probablement fait de nombreuses erreurs dans la suite de ma conférence.
Mmh. Puis t'aurais été la conférencière qui s'est jamais rendu compte que son chemisier s'est déboutonné.
Là, tout le monde en parlait. Ouais. D'ailleurs, je l'ai dit, vous allez probablement. La première chose que vous allez dire en arrivant chez vous, c'est pas Paul était bonne. C'est Paul, son soutien-gorge est rouge.
Mais rouge?
Il était rouge.
Mais moi, j'avais j'en reviens pas.
Cheveux rouges, soutien-gorge
rouge. Je peux pas croire que t'accroches là-dessus, là.
Écoute, non, mais moi, j'en reviens pas que parmi les 400 personnes devant toi, il y en a pas un qui dit... Hey, sérieusement, ça, c'est gênant.
Mais ouais. Sais-tu quoi, Audrey?
Mais tu veux pas malaiser la personne non plus. Imagine-toi si la personne est en train
comment
de perdre tous ses moyens quand tu lui dis qu'on voit tout son décolleté.
Ben, t'aides à rendre ça drôle, je sais pas.
Hey, mais ça prend... Imagine, les gens qui sont dans la salle, eux autres, ils ont pas choisi d'être conférenciers.
Ou tu sais, t'es en avant, là. Mettons tes premières lignes. Moi, je ferais juste un petit signe de...
Mais tu fais de la radio. T'es habitué de parler. Imagine, les gens qui sont dans la salle ne sont pas tout habilités à ça.
Ouais, c'est
imagine,
sûr.
T'es devant... Moi, je me suis dit, je suis devant... J'en vois des spectacles ou des choses comme ça. Mettons que tu es devant quelqu'un, puis il y a la fly à terre où il y a le bouton. Je vois-tu être dans huitième rangée, me lever debout, dire « Hey, bouton! » Ça prend des couilles
non,
en bataille
humiliant.
Pour faire ça.
Ouais.
Là. À moins d'être dans première rangée. Puis des fois, les premières rangées, à cause des éclairages, on ne vous voit pas beaucoup dans la salle. Des fois, on vous voit pas tant que ça. Les premiers, tu sais, ça dépend. Mais l'idée là-dedans, c'est de se dire « ben peut-être qu'il y avait plein de bonnes intentions, puis que ça a soulagé même les gens. » Mais c'est vrai que c'est pas facile de prendre la parole.
Non.
C'est déjà pas facile au restaurant quand quelqu'un a une salade dans dents en avant.
Ouais, effectivement. Nos réactions face à l'échec, ça dépend-tu de ce qu'on a connu chez nos parents, notre père, notre
le
mère?
Le modèle est très important.
Ouais.
Le modèle est très important. Si tu as vécu dans une famille où on a cherché des coupables au lieu des solutions, tu es plus à risque d'être réactionnel puis de bien moins réagir, de réagir moins bien devant l'échec. Mm. Si tu étais dans une famille où on cherchait des solutions, où on était dans « c'est pas grave, t'as fait une erreur, on va avancer puis on va voir comment on peut la réparer. » Le geste réparatoire est très important, réparateur. Oui, t'es plus propice, effectivement, à... Tu sais, le conditionnement, c'est ce que l'éducation t'a apporté. Des fois, il y a des gens, on va le copier tel quel, ou il y a des gens qui vont dire « moi, je me dissocie, puis je vois complètement à l'inverse, c'est ce que t'as vécu. » C'était moche. Mais si tu as été dans une famille où l'erreur a été reconnue, mais elle se transforme en opportunité, regarde, tu as appris quelque chose, on va s'en servir la prochaine fois. C'est ça. C'est à ça que sert l'erreur. En fait, l'école, la vie, c'est une grande école. Tu apprends dans la vie ce que tu n'as pas appris à l'école. Puis il y a des gens qui vont apprendre beaucoup mieux dans la vie aussi. Les gens qui ont une propension au décrochage ou qui vont dire, moi, l'école, j'avais rien à foutre de ça, j'ai besoin de me... Il y a des gens qui ont besoin de se frapper le nez pour apprendre. T'as des enfants, t'en as sûrement un des deux qui, lui, a besoin de toucher la matière. Si tu lui dis, ne touche pas mon trésor, il a le doigt dessus. Touche pas, c'est chaud. Pish! Parce qu'il faut qu'il sache c'est quoi, c'est chaud. Tu sais, il y a des gens qui ont besoin de faire des erreurs pour apprendre.
Toujours piocher. Puis j'ai écouté un podcast de Pierre Lavoie. Je ne sais pas si tu es tombé dessus, mais il parlait du moment de l'embauche. Je sais pas si t'as-tu vu passer
non, non, j'ai pas vu.
Puis il y avait deux candidats devant lui, puis il faisait une image, bien entendu. Puis il y en avait un qui avait toujours été un premier de classe, qui avait toujours été parfait dans sa vie, qui avait un CV parfait et tout ça. Puis t'en avais un autre qui avait jamais été un premier de classe, qui avait tout le temps bûché. Tu sais, bûché pour faire son secondaire 1, son secondaire 2, bûché pour faire son secondaire 3, bûché pour faire son secondaire 4, son secondaire 5 et ainsi de suite. Puis il a dit, ben si j'ai deux candidats qui ont un CV à peu près impeccable, m'a toujours toujours prendre le gars qui a, ou le gars ou la fille qui a toujours plus bûché dans la vie que celui qui l'a toujours eu plus facile. Parce qu'il dit, à partir du moment où moi, mon entreprise va rencontrer certaines embûches, ben le gars qui l'a toujours eu facile ne saura pas comment réagir. Tandis que l'autre, il va se retrousser les mains en disant, c'est pas le premier échec de ma vie que
c'est
je vois.
C'est bon, ça.
Puis on va se battre. Puis Pierre Lavoie, tu sais, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, moi, c'est quelqu'un que j'aime bien. Ce commentaire-là, j'ai trouvé que ça pouvait aider énormément de gens. Parce qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent qui ne l'ont pas eu facile. Puis pour avoir la même chose que le voisin, il faut qu'ils travaillent 10 fois plus fort. Puis de voir qu'il y a des gens qui reconnaissent ça, les gens qui travaillent plus fort que les autres pour arriver, même si c'est le même résultat, j'ai trouvé ça formidable de la part de Pierre Lavoie.
Absolument. Deux choses qu'on développe quand on l'a à la dure. Ça ne veut pas dire qu'on ne le développe pas si c'est facile, mais ça va de soi, c'est la persévérance et une adaptation qui est beaucoup plus souple. Vous savez qu'il y a 3 mécanismes d'adaptation, carotte, œuf, café. Je vous en ai-tu déjà parlé?
Non, mais là, tu viens de piquer mon intérêt.
OK, vous savez qu'il y a 3 façons de s'adapter. Si tu prends de l'eau bouillante puis tu mets une carotte dans l'eau bouillante, qu'est-ce qui va y arriver?
Ben, elle va mollasser.
Elle vient molle. Fait qu'il y a des gens qui sont des bof. Tu sais, bof.
Des flammous.
Pas beaucoup de persévérance, s'écrase, c'est bof, bof, bof. Si tu mets un œuf dans l'eau bouillante, un œuf avec sa coquille, qu'est-ce qui va y arriver?
Il va durcir.
Il va durcir. Donc, on a une adaptation très rigide. Ils ne se donnent pas de permission. Tu sais, ils sont très, très rigides.
Ouais.
Ils ne feront pas beaucoup plus que la carotte, mais pour des raisons différentes. Et il y a le café. Qu'est-ce qui arrive quand on met du café dans l'eau bouillante?
Il se dissout?
Oui, il se transforme.
Il se transforme en café?
Il se transforme. Alors, il transforme la matière. C'est un peu ça. Lorsqu'on est devant une erreur, un échec, une difficulté, on doit agir comme un café. Donc, utiliser ce qu'il y a là pour transformer la matière. Lady Gaga, je reviens là-dessus, c'est l'exemple parfait. Elle a transformé la matière pour arriver à son objectif. Donc, elle a eu une adaptation souple, puis elle a persévéré. Ces 2 éléments-là vont faire la différence entre les gens qui vont progresser.
Puis comment tu te débarrasses de la honte qui vient avec un échec?
Tu t'en débarrasses pas. Tu l'assumes. Pour que tu sois capable de te débarrasser d'une émotion, c'est surtout de l'assumer. Hey, j'ai honte. J'ai le droit d'avoir honte. Mais je me donne pas la permission d'avoir honte plus que 48 heures.
Les gens là, qui te voient là, dans ton échec, il y en a combien dans cette gang-là qui vont venir à tes funérailles?
Et mon Dieu, là, t'es des grandes questions. Peu, là. Très peu.
Bon. C'est pire que ça.
Ouais, non, mais oui, mais toi, là, toi, tu relativises tout, puis t'es calme, puis ça va bien, là, mais on est une gang de paquets de mer.
Ah, mais là, un petit peu pareil.
Moi, quand j'ai appris que s'il pleut, il y a 50% des gens qui étaient invités à mes funérailles qui se pointent pas, là, je me suis rendu compte que c'était mieux de me concentrer sur ceux que, peu importe, beau temps, mauvais temps, ils vont se présenter pour venir me voir.
Ou bien tu demandes que tes funérailles soient fin
de
journée. Oh non! Là, j'y
vais. Oh là, ça a piqué mon cœur!
Ouais, non, ça, je t'agace. Qu'est-ce que tu disais, Paul?
Là, je suis complètement bouleversée.
Je comprends.
Ben, ce que je disais, c'est demande dans ton testament que tes funérailles soient faites une journée où il fait beau pour qu'il y ait au moins 3-4 personnes.
Exact, exact. Paul Lévesque, spécialiste du comportement humain, c'est toujours un plaisir de te jaser. Oui. On va se reparler dans quelques semaines. Tu es éducatrice spécialisée. Tu peux faire des conférences, bien entendu, que ce soit au privé ou au commercial ou pour des entreprises gouvernementales. Pour te rejoindre, qu'est-ce qu'on peut faire?
Tu cries Paul sur une montagne, je vais arriver. Mais
Paul Lévesque, point.
Point, c'est-tu point net? C'est ça, hein?
Paul Lévesque, point net.
Oui. Paul Lévesque, pas d'accent, là, vous allez me trouver partout. Là.
Paul Lévesque.
Paul Lévesque.
Ouais. Puis même si on dit notre adresse courriel, les gens ne les prennent pas en note. Fait que Paul Lévesque, pas d'accent, googlez ça, vous allez me trouver. Sinon, ben le chemin vous amenant vers Yannick et Audrey vont toujours...
On va vous rediriger.
Oui.
Toi, rediriger vers...
Comme on disait dans le temps, tous les chemins mènent à Paul.
Ouais.
Salut!
J'aime ça.
On fait une pause, on revient.
Le garage à Dan.